Vous écoutez Radio France Internationale, il est 16h à Paris, 15h en temps universel.
Marion Cazanov.
D'abord, fragile, l'accord de trêve entre Israël et le Hamas se concrétise. Validé tout à l'heure par le Conseil de sécurité israélien, il devrait entrer en vigueur dans moins de 48 heures avec un cessez-le-feu à Gaza dimanche et de premières libérations d'otages israéliens. Au Liban, Emmanuel Macron vient apporter son soutien au nouveau dirigeant du pays, Joseph Aoun. Dans ce journal, également un contrat historique entre le français Orano et la Mongolie. Le groupe public va pouvoir exploiter une mine d'uranium. Et puis Erling Haaland prolonge à Manchester City. L'attaquant norvégien a signé pour 9 années supplémentaires et une telle durée, c'est très rare dans le monde du foot. L'attente d'une trêve donc entre Israël et le Hamas, le cabinet de sécurité israélien a donné son feu vert tout à l'heure pour cet accord qui restait encore fragile ces dernières heures. Un cessez-le-feu devrait entrer en vigueur dimanche après-demain. Ce même jour, le Hamas devrait aussi libérer de premiers otages israéliens. L'accord prévoit en tout la libération de 33 personnes. Nicolas Falaise, les familles concernées en ont été informées.
Le Forum des familles des otages nous l'a confirmé, c'est bien une liste officielle de 33 noms qui a été rendue publique, 33 otages libérables par étape dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu. Les familles concernées ont été informées par le gouvernement israélien. Précision importante, on ignore toujours si la totalité de ces 33 personnes sont en vie ou non et quel est leur état de santé si elles sont en vie. Sur cette liste figurent deux enfants, Kfar et Ariel Bibas, 2 ans et 5 ans. Leur sort est très incertain puisque le Hamas a annoncé leur mort à Gaza il y a de cela des mois, mais cette information n'a pas été confirmée par la suite. La mère des deux enfants apparaît aussi sur la liste. 10 femmes en tout figurent parmi ces 33 noms. Les autres sont des hommes, dont 3 octogénaires. Les deux franco-israéliens otages à Gaza font partie de ce groupe. Le président français Emmanuel Macron l'a confirmé ce vendredi. Reste la même incertitude. On ignore si Ofer Calderon et Oad Yael Omi sont encore en vie. Nicolas Falaise, Tel Aviv, RFI.
Et cette annonce d'Emmanuel Macron, président français, sur la libération des deux otages franco-israéliens, elle a été faite tout à l'heure à Beyrouth. Visite éclair de 12 heures au Liban pour le président, où il a rencontré son homologue et est venu lui apporter son soutien. Emmanuel Macron, tout à l'heure à Beyrouth.
Monsieur le président, en vous portant à la tête de la présidence de la République, le 9 janvier dernier, avec une très large majorité, les députés libanais ont mis fin à plus de 2 ans de vacances à la tête de l'État. Et en désignant, là aussi largement, le 13 janvier, un nouveau président du Conseil des ministres, M. Nawaf Salam, ils ont confirmé cette demande de changement et le Liban résolument sur la voie du redressement. Et depuis le 9 janvier dernier, au plein milieu de l'hiver, le printemps est apparu. Alors, Monsieur le Président, la France qui a été aux côtés du Liban chéri pendant ces années si difficiles, où il y avait peu de fleurs, s'engagera encore davantage à vos côtés, aux côtés des Libanaises et des Libanais, pour vous aider à réussir sur ce chemin.
Emmanuel Macron avec Joseph Aoun à Beyrouth, le président français, a également annoncé une nouvelle conférence internationale à Paris pour la reconstruction du Liban. Le président qui, en venant dans le pays, a emboîté le pas à Antonio Guterres, chef de l'ONU. Ce dernier, tout à l'heure, a demandé à ce que l'occupation et les opérations militaires israéliennes cessent dans le sud du Liban. En Corée du Sud, le président suspendu Yoon Suk-yeol pourrait rester en détention. Les enquêteurs demandent la prolongation de cette détention. Yoon Suk-yeol avait tenté d'échapper à une arrestation pendant des semaines. Il est poursuivi pour avoir tenté d'imposer la loi martiale dans le pays. On reste sur le continent asiatique où la Mongolie intéresse de nombreux groupes miniers et énergétiques. Le sous-sol de ce pays enclavé entre la Russie et la Chine est très riche, notamment en uranium. Et ça n'échappe pas au groupe public français Orano, anciennement Areva. Il vient de signer un accord pour exploiter une nouvelle mine. Un contrat historique, Anishka Kumor, qui se faisait attendre depuis près de 2 ans.
C'est au retour du G7 à Hiroshima en mai 2023 qu'Emmanuel Macron s'arrête à Ulaanbaatar. L'objectif du président français, consolider les relations entre les deux pays, mais aussi accélérer l'exploitation d'une nouvelle mine d'uranium par Orano. Présent en Mongolie depuis 1997, le groupe public français considère le site de Tsouftchovo comme important, situé dans le désert de Gobi, ce vaste gisement possède 90 000 tonnes d'uranium prévu pour durer 30 ans. D'un investissement total d'1,5 milliard d'euros, ce projet devrait créer 1 600 emplois directs et indirects. Attendu pour 2027, la mine de Tsouftchovo devrait produire 2 500 tonnes d'uranium par an. L'enjeu est crucial. La France en consomme dans ses centrales nucléaires 9 000 tonnes par an. L'uranium mongol représente un quart de ses besoins. Outre la France, Orano devrait aussi alimenter ses autres clients dans l'UE et dans le monde, alors que la demande pour l'énergie d'origine nucléaire ne cesse de croître.
Anishka Kumor du service économie de RFI. En France, les retraites de retour dans le débat. Le Premier ministre François Bayrou a lancé un conclave, comme il l'appelle, avec les partenaires sociaux pour rediscuter de cette réforme très contestée. Syndicats et patronats se sont rencontrés tout à l'heure pour une première prise de contact. François Bayrou espère un accord fin mai. Le syndicat CGT, lui, estime que cette réunion a été l'occasion de constater l'ampleur des désaccords entre les différentes parties. Et c'est une première en France. Une patiente serait guérie du VIH. Elle est traitée à Marseille, dans le sud-est, à l'hôpital Sainte-Marguerite. Et elle aurait été guérie grâce à une greffe de moelle osseuse pour traiter une leucémie qu'elle avait développée. Il s'agirait du 8e cas de rémission dans le monde, Olivier Sherman.
La patiente a été diagnostiquée séropositive en 1999, immédiatement traitée par antirétroviraux. Ce n'est qu'à partir de 2010 que son traitement se montre véritablement efficace, avec une charge virale devenue indétectable, c'est-à-dire contrôlée par le traitement. Mais indétectable n'est pas pour autant synonyme de guérison. Il reste toujours dans le corps des traces ou des fragments de virus latents susceptibles de se réactiver. Et 10 ans plus tard, en février 2020, une leucémie, un cancer du sang, est diagnostiquée chez cette femme. Elle bénéficie alors d'une allogreffe de moelle osseuse grâce à un donneur compatible. Des tests poussés, ultra sensibles de charge virale, se sont tous avérés négatifs depuis la greffe. L'équipe médicale décide l'arrêt du traitement antirétroviral en octobre 2023. Et depuis plus d'un an, donc, on peut parler de rémission de l'infection VIH et d'un potentiel cas de guérison. Cette technique n'est malheureusement pas reproductible chez tous les patients infectés par le VIH, trop onéreuse et très lourde en termes d'organisation.
Et la France qui célèbre aujourd'hui un anniversaire, les 50 ans de la loi Veil qui autorise l'avortement dans le pays, portée par Simone Veil, ministre de la Santé à l'époque. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement, avait-elle déclaré alors à l'Assemblée nationale. Le 17 janvier 1975, en plus de cette loi, une autre autorisait les centres de planning familial à donner gratuitement aux mineurs des contraceptifs sur prescription médicale. Désolée, je suis là pour rester. Les mots d'Erling Haaland, le buteur norvégien de 24 ans, qui va rester donc le cauchemar des gardiens dans le championnat de foot anglais. Et pour longtemps, l'attaquant prolonge à Manchester City jusqu'en 2034. Frédéric Suto, il est rare qu'un contrat court sur une période aussi longue.
Manchester City publie une photo d'Erling Haaland avec un maillot où le chiffre est donc l'année 2034 est floqué. 34, c'est aussi l'âge qu'aura le Norvégien dans 10 ans. Erling Haaland est arrivé dans le nord de l'Angleterre en 2022. Son contrat actuel courait jusqu'en 2027. Un message fort que Manchester City envoie à tous ses concurrents. Erling Haaland, à l'instar d'un Kylian Mbappé, fait partie des meilleurs attaquants du monde. Un prototype unique d'1m95 qui va vous marquer 40 but par saison. Il n'est pas à vendre et si dans les prochaines années un club cherchait à s'en approcher, il lui faudra casser sa tirelire en rachetant toutes ces années de contrat. Après, au-delà du cas Haaland, il y a une tendance, oui, dans le foot européen, comme c'est déjà le cas depuis longtemps aux États-Unis dans d'autres sports, baseball, foot américain ou basket NBA, à aller vers des contrats de plus en plus longs, une façon d'amortir et de rentabiliser un investissement colossal. En 10 ans, Haaland va coûter quelques 250 millions d'euros à Manchester City, mais il pourrait rapporter en marketing, résultats, notoriété, bien plus encore.
Frédéric Suto. Et prochain grand rendez-vous pour Manchester City, ce sera mercredi. L'équipe affronte le Paris Saint-Germain pour l'avant-dernière rencontre de la première phase de Ligue des Champions. 16h10 à Paris, 15h10 en temps universel. Nathalie Amar vous attend sur le Pont des Arts. Bonjour Nathalie.
Bonjour Marion Cazanov. Le Pont des Arts dans 30 secondes.